Je suis complètement prêt. Est-ce que vous êtes prêts? Moi, je suis réveillé, je suis prêt et ça va bouger dans votre cœur si vous êtes prêt à recevoir de Dieu. Dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 2, on va terminer cette série que l'on a commencée il y a maintenant quelques temps, puisqu'on est au 9e épisode et dernier épisode de la vie de cet homme extraordinairement engagé qui s'appelle Élie. Quel homme de Dieu! Quel homme de Dieu! Ce matin, le thème et le dernier thème que l'on va voir, c'est Élie et les récompenses éternelles. C'était ce que je craignais. Il est quand même tôt encore. Élie et les récompenses éternelles. Deux possibilités. Soit vous n'êtes pas réveillé ou soit vous n'y croyez pas pour vous. Alors si vous n'y croyez pas pour vous, il y a peut-être un problème. La semaine dernière, effectivement, on s'était quitté avec le jugement de Dieu. Parce qu'on ne fait pas n'importe quoi devant Dieu. Et il y a des conséquences à chaque action négative que l'on fait. Il entend tout. Mais il y a également, et c'est ce que l'on va voir ce matin, pour chaque chose, chaque action, chaque parole que tu auras faite pour Dieu, il y a des récompenses éternelles. Et c'est aussi vrai. Et c'est extraordinaire ce qui t'attend. Parce que Élie, après avoir souffert tout ce que tu as souffert, Dieu te fait une aide d'honneur quand tu rentres au ciel. Dieu l'avait placé comme un prophète courageux. Face au roi Achab, combien de fois il a risqué sa vie? Lorsqu'il était à Kérit et qu'il devait attendre ce que les corbeaux lui donnaient, lorsque le matin... Il devait voir tomber ce petit morceau de pain ou ce petit morceau de viande et qui disait « Seigneur, merci, tu me donnes mon pain quotidien. » Je ne sais pas si tu as connu des temps de difficultés financières, des temps où tu as dû vraiment compter sur Dieu, des temps où tu étais dans la dépendance, comme il a pris la dépendance lorsqu'il était à Kérit. Puis de là, il y a eu une amélioration comme Dieu l'est fait. C'est-à-dire, c'était plus un autre apprentissage qu'une amélioration. Parce que Dieu a permis qu'il aille à Sarepta. Et à Sarepta, c'est une femme encore plus pauvre que lui. Vous vous rappelez, on avait médité sur cette femme à qui Dieu avait dit, mais d'abord, prépare-moi d'abord et tu verras si ton huile et ta farine s'épuisent. Non, elles ne s'épuiseront pas par la parole de l'Éternel. Et cette femme a appris à combien Dieu était le Dieu qui, lorsqu'on le mettait en premier, vraiment pourvoyait. On a vu en troisième point que ça t'empêchera pas, même enfant de Dieu, tu t'es levé, tu as pris des positions, tu as été droit, tu as fait les bons choix. Et malgré ça, tu peux obtenir la critique et le jugement en retour. Et être marginalisé, être critiqué. Et des fois, ça te blesse parce que tu te dis, mais Seigneur, comment c'est possible? C'est moi qui ai pris position dans l'entreprise. C'est moi qui ai dit la chose vraie dans ma famille. Et tout retombe sur moi. Comment ça se fait, Seigneur? Face aux critiques de tes proches, et des fois c'était ce qui allait être plus dur, comme Élie a vécu avec cette femme qui l'a accusé de choses, notamment par rapport au décès de son fils, alors qu'il était pour rien. Laisse, ne te mets pas en colère, apporte ça au Seigneur. Il a pris l'enfant, il n'a pas essayé de se justifier avec cette femme qui souffrait, il a pris ce bébé, il l'a apporté à Dieu, et dit Dieu s'il te plaît. Ceci n'est pas dans mon pouvoir, mais c'est dans ton pouvoir. Si tu vois ma situation, que tu veux intervenir pour ce bébé, tu le fais. Et Dieu a ressuscité le bébé. On a vu une quatrième étape, c'était la plus importante de sa vie, c'était son grand combat, c'était son Carmel. La préparation au Carmel était très forte. Et c'est cette journée forte de ta vie où tu t'es engagé avec Dieu seul contre tous. Il s'est engagé seul contre tous au Carmel. 450 prophètes de Baal, je ne reviens pas, en furie, il a tenu. Et le soir, Dieu a fait descendre le feu sur l'autel. Point 6, on a vu que, alors qu'il avait déjà vu la gloire de Dieu sur l'autel, il ne s'agit pas de tout considérer comme acquis, non. Élie a pris le peu de force qui lui restait. Il a monté la montagne jusqu'au sommet. Après, il n'avait plus de force. Il a dit à son petit jeune serviteur, va monte à ma place et regarde s'il n'y a pas un nuage qui vient de la mer. Moi, je vais intercéder. Moi, je vais prier pour que le peuple voit la gloire de Dieu qui descend. Et ce petit nuage s'est formé. Il est descendu, il est allé voir Achab, il dit « Je t'annonce une pluie, enfin la pluie, après 3 années et demie de sécheresse, voici la pluie sur le pays. » Elle a dit « Cours, mets ton char, prépare-toi parce que la pluie va t'embourber, je vais aller plus vite que toi. » Et rempli de ce zèle de Dieu comme toi, lorsque tu as ces jours où tu as fond pour Dieu, il a couru un demi-marathon plus rapidement qu'Achab avec son char. Il arrive à Jizréel. Et là, c'est vraiment le jour de gloire de Élie. C'est le moment où tu dis « Waouh, Dieu est puissant, Dieu est dans ma vie !» Où tu as chanté le matin, où tu n'as plus de voix le soir quand tu rentres. Tu as tellement vu la gloire de Dieu. Sauf qu'après, à des plus grands sommets spirituels de sa vie, une phrase de Jézabel, la Mikao. Demain, à la même heure, tu es mort. Et on avait vu qu'on est des êtres fragiles. Et le principal ennemi que tu as, ce n'est pas Jézabel. C'est à l'intérieur, c'est toi. Ton principal ennemi dans tous tes combats, c'est toi. C'est cette petite voix à l'intérieur qui dit « Abandonne tout, lâche l'affaire, c'est plus possible. Dieu ne peut pas intervenir là-dedans. Ton Dieu ne va pas agir pour toi. Ton Dieu t'a lâché. Te voilà seul, regarde, t'es dans ton désert, tu n'as plus que tes yeux pour pleurer. Élie, c'est fini. » Vous avez cette petite voix intérieure ? Tous les grands hommes de Dieu, toutes les femmes de Dieu, qui, même les femmes de prière qui ont vécu des intercessions extraordinaires, ont un jour cette petite voix dans leur cœur qui s'appuie sur quelques événements extérieurs, une simple menace, et ça met par terre un héros de Dieu. Mais Dieu les relève. Parce que Dieu n'abandonne pas ses champions. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Et à ce moment-là, effectivement, Élie n'est plus un champion, mais il reste un enfant de Dieu. Élie n'est plus un champion, mais il reste un enfant de Dieu. Et ça veut dire que la bonté de Dieu et son plaisir de te relever ne dépend pas de toutes tes réussites, de tout ce que tu es au moment où tu le vis. Des fois, tu dis, mais je suis plus à la hauteur, alors Dieu va me lâcher parce que je suis plus à la hauteur. C'est pas vrai. Dieu se plaît dans tes faiblesses, à te relever même quand tu le mérites pas. Et c'est au moment où il est le plus bas que Dieu va l'amener vers Horeb et il va avoir un nouveau départ dans sa vie. C'était très fort ce qu'on a vécu là. Quand il y a une nouvelle révélation de Dieu, une nouvelle onction de Dieu, une nouvelle mission de Dieu. Les choses anciennes sont passées, fais le deuil de ton passé. Et la semaine dernière, on s'est quitté avec un des derniers textes. C'était la justice de Dieu. Tu ne fais pas n'importe quoi devant Dieu. Dieu est juste, il jugera toutes choses. Il jugera Akab pour ce qu'il a fait à Naboth. Il jugera le roi Ahazia pour ce qu'il a dit, les paroles de légèreté qu'il a prononcées contre Dieu. Dieu est juste. Et on ouvre maintenant le dernier point, les récompenses éternelles. Deux Rois, chapitre 2, verset 1er. Le jour où l'Éternel enleva Élie au ciel dans un tourbillon de vent, celui-ci partait de Gilgal avec Élisée. À un moment donné, il lui dit « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'ordonne d'aller jusqu'à Bethel. » Élisée répondit « Aussi vrai que l'Éternel est vivant et que tu es toi-même en vie, je ne te quitterai pas. » Ils se rendirent donc ensemble à Bethel. Les disciples des prophètes qui habitaient Bethel sortirent au devant d'Élisée et lui demandèrent « Mais sais-tu que l'Éternel va enlever aujourd'hui ton maître au-dessus de toi ?» Il leur répondit « Oui, je le sais, moi aussi. » Mais ne parlez pas de cela. Élie dit à nouveau, arrête-toi ici, il parle à Élisée, hein, car l'Éternel m'ordonne d'aller jusqu'à Jéricho. Il répondit, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que tu es toi-même en vie, je ne te quitterai pas. Ils allèrent ensemble à Jéricho. Les disciples des prophètes qui habitaient Jéricho vinrent au devant d'Élisée et lui demandèrent, sais-tu que l'Éternel va enlever aujourd'hui ? Il y en a qui sont pénibles, hein, quand on s'attend une mauvaise nouvelle, ils nous la répètent autant de fois qu'il faut, mais bon. Va enlever ton maître au-dessus de toi. Il répondit, oui, je le sais, moi aussi. Mais ne parlez pas de cela. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'ordonne de me rendre jusqu'au Jourdain. Vous savez que le Jourdain, c'est de l'autre côté de la rivière. Vous comprenez ce que ça veut dire en image aussi. C'est la fin du chemin d'Élie. Élie, tu t'apprêtes à rentrer dans la gloire là. Mais Élisée lui répondit, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que tu es toi-même en vie, je ne te quitterai pas. Ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 disciples des prophètes les suivirent, se postèrent en face d'eux à une certaine distance lorsqu'ils s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie enleva son manteau, le roula, frappa l'eau du fleuve et s'écarta de part et d'autre, de sorte qu'ils purent traverser tous deux à sec. Et je vais au verset 11 pour terminer. Pendant qu'ils continuaient à marcher tout en parlant, un char de feu tiré par des chevaux de feu vint entre eux et les sépara l'un de l'autre. Élie fut entraîné au ciel dans un tourbillon de vent. Seigneur, conduis cette méditation ce matin. Seigneur, parle à nos cœurs, parle à quelqu'un qui a besoin de comprendre ce qu'est le ciel. Seigneur, que tu puisses éclairer notre intelligence, qu'il y ait des pensées de Dieu, qu'il y ait une onction particulière pour celui ou celle que tu as destiné pour recevoir ce message de ta part, qu'il fasse autorité dans le cœur et qu'il puisse vraiment chasser des craintes, apporter la paix et avoir une vision claire de ce que tu as prévu comme plan. Au nom de Jésus, amen. Amen. Je bénis Dieu parce qu'il est un temps après les souffrances, après les pleurs, où viennent les récompenses. Je me rappelle du frère Overfall. J'étais petit, je devais avoir 7 ou 8 ans. Et c'est marrant, hein, comme Élisée, vous sentez quand quelqu'un est sur le point de partir. Il y a quelque chose dans le... Je ne parle pas de l'odeur de la mort. Non, 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 non. Je parle de l'odeur de la vie après la vie. Les gens de ce monde, ils sentent l'odeur de la mort parce qu'ils en ont peur. Mais les personnes qui connaissent Dieu, lorsque vous voyez un vrai homme de Dieu, il ne part pas pareil. Il avait terminé son message, il avait plus de 80 ans, c'était un des derniers messages de sa vie. Et je me rappelle très très bien, je le vois encore, il repose sa Bible. Et on voyait, il était très très fatigué, le papy. Il avait fait vraiment le maximum. Et ce message, c'était pas le message de trop, mais c'était comme Élie. Il y a des moments où vous avez donné, il n'y a plus rien, si ce n'est la gloire devant vous. Et je me rappelle, c'est cet homme qui a fondé tellement d'églises en France, Overfall, qui descend de l'estrade. Et comme il était un peu faible, évidemment, il y a deux anciens de l'église qui sont mis de chaque côté, comme Aaron et Hur, vous voyez. Et puis je le vois encore, c'est marrant, il y a des images que vous oublierez jamais de votre vie. Et je l'ai vu traverser toute l'église, c'était pas une église comme celle-ci, un peu biscornue, non, c'était une église toute droite. Et donc il était dans l'allée centrale avec un ancien à droite, un ancien à gauche. Et il y avait ce chant qui disait « Toi qui disposes de toutes choses que vous connaissez bien ». Et il partait, c'était un symbole parce que je savais que c'était la dernière fois que je l'entendais en prédication, mais il y avait à la fois la sainteté de Dieu dans la place. La sainteté de Dieu. Vous voyez combien Dieu était en train de dire, c'est un monsieur qui rentre à la maison. C'est un monsieur qui rentre à la maison. Il y avait une onction de Dieu dans la pièce. Il avait fini de prêcher, mais ça parlait plus à la fin de la prédication que pendant la prédication. Parce que sa vie parlait pour lui. Parce que sa vie parlait pour lui. La Bible dit, au livre de l'Apocalypse, « Puis j'entendis une voix venant du ciel, Apocalypse 14, verset 13, me dire, écrit, « Heureux dès à présent ceux qui meurent unis au Seigneur. Oui, dit l'Esprit, car ils se reposent de toute la peine qu'ils ont prise et ils seront récompensés pour leurs œuvres. » Et ils seront récompensés pour leurs œuvres. Dans Apocalypse 22, verset 12, il dit, « Oui, dit Jésus, je viens bientôt. » J'apporte avec moi mes récompenses pour rendre à chacun selon ce qu'il aura fait. Un peu avant, il est écrit, l'heure est venue où tous les morts seront jugés, où tous les serviteurs, les prophètes, tous ceux qui t'appartiennent, tous ceux qui te révèrent, petits et grands, seront récompensés. Es-tu prêt à comparaître devant le roi des rois? Es-tu prêt? Es-tu prête, ma sœur, à comparaître? Il y a un temps, après la vie, après les pleurs, où Dieu nous attend au ciel, on va juste regarder le dernier voyage de Élie. C'est très très beau, je suis ému en même temps ce matin parce que je voudrais que ta vie se termine comme la vie d'Élie. Je voudrais que ma vie se termine comme la vie d'Élie. Déjà, je trouve que c'est bien de partir au ciel sans mourir. C'est un luxe quand même que... Je ne sais pas si tu pourras te permettre, si je pourrais me permettre, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas souffert dans son corps, hein, parce que certains, c'est pour éviter une maladie ou un moment de souffrance. Souvent, le dernier tunnel, comme on avait vu la semaine dernière, n'est pas facile. Mais là, c'est vraiment un marcheur, il a marché toute sa vie, et c'est en marchant qu'il s'en va vers le ciel. Seigneur, quelle gloire pour Élie. Je voudrais que tu puisses vivre accroché au Seigneur. Tony Barnett disait cette phrase, il dit « Appréciez le voyage, réalisez le voyage, vivez chaque instant du voyage. » Est-ce que tu vis ton voyage avec Dieu aujourd'hui? Parce que quand viendra l'heure du grand départ, tu ne pourras plus agir, tu ne pourras plus rajouter une seule œuvre à ta vie. Alors, regardez ce qui se passe, Élie. Alors, ça peut vous donner des conseils, peut-être pour certains, si vous accompagnez des proches qui sont dans une période où ils savent que le Seigneur va les reprendre, ou bien, on parle vrai ce matin, ou bien si toi-même, tu vois les années qui passent, regardez ce qui est écrit. Le jour où l'Éternel enleva Élie au ciel dans un tourbillon de vent, celui-ci partait de Gilgal avec Élisée. En fait, ce que va faire Élie, c'est qu'il va faire un périple de trois villes. Il va passer à Gilgal. Ensuite, de Gilgal, il va aller vers Bethel. Et de Bethel, il va aller vers Jéricho. C'est le bilan de sa vie. il va faire le pain. Vous savez ce que c'est Gilgal? Gilgal, pour les Israélites, c'est là où ils ont commencé à rentrer dans le pays. C'est Gilgal, le début de l'histoire. C'est par là que le peuple d'Israël a commencé le premier autel à la gloire de Dieu et qu'ils sont rentrés dans le pays promis. Et je pense que Élie a envie de faire le point sur le début de sa vie. Comment ça s'est passé au début? Comment ça s'est passé au tout début, ton départ avec Dieu? Ne méprisez pas les petits commencements. Et je pense que Élie, lorsqu'il va à Gilgal, il se dit waouh, le début, c'était pas facile. Mais l'Éternel a été avec nous. Je ne sais pas comment c'était ton début, ton baptême, dans quelle église tu t'es converti, sur quel chant d'adoration tu as commencé à être touché. Et pour la première fois, ce n'est plus ton cerveau qui a parlé, c'est ton cœur. Quand la première fois où peut-être une larme est rentrée dans tes yeux parce que tu disais, mais véritablement, l'Éternel est présent dans ce lieu. Ça, c'est le début. C'est le début de l'histoire. Mais il ne s'est pas arrêté là de Gilgal, il allait vers Bethel. Bethel, c'est la maison de Dieu. Ça veut dire maison de Dieu. C'est le lieu de la rencontre avec Dieu, c'est le lieu de prière, c'est ce lieu où ma sœur, tu as été avec Dieu dans sa maison, dans sa proximité. Je ne parle pas de ta conversion, là, je parle d'un autre moment plus tard dans ta vie où tu as peut-être intercédé, tu étais en prière dans la maison de Dieu. Dieu t'a permis de vivre des choses très très fortes, peut-être très dures aussi. Des fois, on va à la maison de Dieu pour pleurer. Des fois, on va à la maison de Dieu pour chanter. Des fois, on va à la maison de Dieu pour faire le deuil d'un proche. Des fois, on va à la maison de Dieu pour dire, Seigneur, voici cet être cher que j'avais, que tu as repris. Peut-être tu as fait des fausses couches, tu as peut-être des choses comme ça qui te reviennent. Et y a des personnes que tu as laissées en chemin dans la maison de Dieu, que tu as laissées partir vers la maison de Dieu avant, vers le ciel. Puis ça te prépare, il sait que lui aussi un jour ira vers sa maison là-haut, ce lieu d'adoration. Je ne sais pas si vous connaissez, j'étais au Texas et j'ai entendu ce chant qui disait « When I die, hallelujah, by and by, I fly away ». Ce qui veut dire « quand je partirai, quand je mourrai, alléluia, bye bye, je m'envolerai ». Et il y a une joie que l'on ne peut pas connaître si on ne connaît pas le Dieu du chemin et ce qu'il y a après. Pourquoi ces hommes et ces femmes de Dieu peuvent chanter cela? Je vous rappelle ce papy, pareil, ce papy gospel américain, un black rempli du Saint-Esprit. Il était tout grisonnant, tout fripé. Il devait être très, très âgé quand il conduisait les chants. Mais vous voyez que sa relation avec Dieu, c'était du béton armé, mes amis. Et quand il chantait les cantiques, il pouvait reprendre le plus petit des cantiques de l'école du dimanche. Tout était vrai. Parce que toute sa vie était en accord avec Dieu. Et de Bethel, faire son dernier adieu à ses disciples. À chaque fois, il voit les disciples, vous avez vu? Il va voir ceux qui viennent après. Est-ce que toi, tu aimes la génération qui vient après? Est-ce que tu prends soin de transmettre ton héritage à la génération qui vient après? Peut-être tu dis, je suis encore jeune. Oui, mais il y a déjà une génération qui vient après. Tu es une maman, tu as à transmettre ton héritage à la génération qui vient d'après. Et il va prendre Élie, chacun des fils, des prophètes, des disciples des prophètes. En gros, il fait le tour des écoles bibliques. Il fait l'école biblique de Gilgal, après il fait l'école biblique de Bethel. Et il va terminer avec l'école biblique de Jéricho. Il fait le point sur toutes ces personnes qui sont prêtes à relever le flambeau derrière lui. Jéricho, c'était quoi? Vous vous rappelez dans la Bible, ça, je pense quand même. Jéricho, c'était là où les murailles se sont effondrées. C'est le lieu des combats. C'est les fois où il y a eu vraiment une opposition, où c'est des choses spirituelles qui se sont débloquées. Vous vous rappelez comment ils ont débloqué ces choses-là? Dans la louange. Ils faisaient le tour de la ville, ils chantaient, et les murailles se sont effondrées. Il y a des blocages spirituels. Il y a eu des temps où tu as peut-être, comme Jéricho, tu étais dans le combat. Et puis, c'est le pays de la louange, parce que c'est là où Dieu a passé t'a permis de rentrer dans le pays promis. Et la dernière partie du voyage, après toutes ces étapes, cette tournée des trois écoles bibliques, il dit à Élisée, reste là. Tu ne veux pas venir avec moi. Ce dernier voyage, on ne peut pas le faire à deux. parce que je vais de l'autre côté du Jourdain. Voilà, je vais de l'autre côté du Jourdain, je vais de l'autre côté de la rivière, je vais vers le pays qui s'appelle le ciel. Et Élisée ne veut pas le lâcher, dis donc. Élisée, c'est un affamé. Il est affamé de la présence de Dieu et il est affamé d'apprendre. Et il se dit, oh papy, il t'a encore des choses à me dire. Je veux encore voir quelque chose qui vient de toi. Et vous savez pas quoi? Il va pouvoir voir encore quelque chose qui vient de Dieu. Parce que Élie, excusez-moi, mais c'est quand même quelqu'un. Hein, c'est que le Jourdain, il y a un petit peu trop d'eau ce jour-là. Alors plutôt que faire un détour, il prend le manteau, il le roule, il tape le Jourdain s'ouvre en deux. Jusqu'à la fin, la puissance de Dieu est sur lui. Jusqu'à la fin de sa vie, la bénédiction de Dieu est sur lui. Et il passe le Jourdain, trois étoiles avec cette eau qui se sépare en deux, comme Moïse avait séparé la mer Rouge. Il passe au milieu. Élisée regarde ça et dit, c'est pas possible. Je voudrais ça moi aussi. Vous avez, c'est quoi le taxi de Dieu ce jour-là? Ce n'est pas une Mercedes, hein, une super Mercedes noire, métallisée. Non, non, Dieu a mieux. C'est le taxi du ciel, c'est un char de feu, des chevaux de feu. Et d'ailleurs, vu que Élisée s'est un petit peu incrusté jusqu'à la fin, ça a été un petit peu pénible parce que le char a dû passer au milieu. Mais Dieu est bon, il n'a pas brûlé Élisée. Hein. Voilà, ils étaient tous les deux en train de marcher. Et tout d'un coup, vous savez qu'en hébreu, la mort, c'est pas pareil qu'en français, c'est simplement le fait de se séparer, de déchirer, mais c'est pas forcément négatif. Et il y a une séparation, c'est à deux routes qui continuent. Et là, c'est le char de feu qui vient et qui sépare au milieu. Élisée, toi, ton chemin est sur la terre. Élie, on t'embarque, on va au ciel. On t'embarque, on va au ciel. Vous êtes prêts pour le ciel? Alors je vais vous lire quelque chose, parce que c'est un passage qui fait du bien. C'est un passage qui est écrit dans la parole. Nous ne voulons pas, frères, sœurs, que vous vous laissez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne soyez pas tristes, de la même manière que restent des hommes qui n'ont pas d'espérance. En effet, puisque nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, nous croyons que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Voici ce que nous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous qui serons restés en vie au moment où le Seigneur viendra, nous ne précéderons pas ceux qui sont morts. En effet, au signal donné, sitôt que la voix de l'archange, le son de la trompette divine auront retenti, le Seigneur lui-même descendra du ciel et ceux qui sont morts, unis au Christ, ressusciteront les premiers. Ensuite, nous qui serons restés en vie à ce moment-là, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Tu es prêt pour les allées du paradis? Et vous n'êtes pas prêt encore. Hein, il y a deux petits amen asthmatiques, mais qui ne sont pas liés à l'âge. Moi aussi, j'aime bien la vie sur la terre. Prépare le ciel. Parce que ne crois pas que tout se passe sur la terre. Sur la terre, c'est juste l'introduction. C'est la bande-annonce du film qui vient après. Sauf que dans ce qui vient après, il n'y a plus de larmes, plus de pleurs. Parce qu'il essuiera lui-même les larmes de leurs yeux, dit la Bible. Alors, j'ai deux questions à vous poser avant de vous laisser. Après, dans l'après. Deux questions essentielles. Un, est-ce que tu y seras? Est-ce que tu y seras? Est-ce que Dieu te prendra avec lui? Est-ce que tu seras accepté? Deuxième chose, est-ce que tu seras récompensé? Est-ce que, lorsque ton tour viendra de passer devant le trône de Dieu, si tu es accepté, quelle sera la note? J'ai mes élèves qui ont passé le bac. Il y en a plein qui m'ont envoyé des petits mails hier soir en disant hey, j'ai une bonne récompense, j'ai eu un 17, j'ai eu un 18, etc. Et oui, il y a un moment où il y a deux choses dans le bac. Il y a le fait de l'avoir, d'accord? Et puis il y a les mentions et tout ça. Ça, c'est en plus, on est d'accord? Vous allez me dire, moi, je ne suis pas ambitieux, je veux juste 10, monsieur le pasteur, d'accord? Mais c'est dommage parce que j'ai vu des élèves brillants qui ont eu 10 parce qu'ils n'ont rien fait de l'année. Et si c'est votre enfant, vous êtes même énervé. Quand vous savez que cette fille, ce garçon avait vraiment des possibilités et qu'il a préféré jouer à la console tous les jours, ça vous énerve, d'accord? Et vous lui dites, arrête, lève-toi de ton lit, va bosser. Arrête de jouer à l'ordinateur maintenant, tu vas travailler tes maths. Parce que vous êtes ses parents et vous voulez le meilleur pour eux. Et bien, de la même façon, au ciel, il y a un examen de passage où la première partie s'appelle le salut, c'est le fait d'être accepté. On est accepté, vous savez, le 10 de moyenne, comment on fait pour l'avoir? Vous savez comment on fait pour avoir le 10 de moyenne? Oh, on ne vient pas en disant j'ai été un super champion. On vient en disant j'ai rien. J'ai rien pour moi si ce n'est le sang de Jésus qui, à la croix, a payé pour mes péchés, m'a effacé mes mauvaises notes. Et vu qu'il n'y a plus de mauvaises notes, je suis accepté. En fait, c'est sur tapis vert que vous l'avez. Ou plutôt, faudrait dire sur tapis rouge. C'est Jésus qui a effacé tous vos erreurs et qui vous fait rentrer au ciel. Mais ça veut dire que vous arrivez au ciel quand vous êtes sauvés. Certains, la Bible dit, ils seront sauvés comme au travers du feu. Il n'y a plus rien d'autre. Serai-je sauvé? Dans Marc 16, ne cherchez pas, je vous le lis, au verset 14, il est dit, plus tard, c'est à la fin, c'est juste avant de monter au ciel. Jésus se montra aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur incrédulité, leur manque de foi et leur aveuglement, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. Et il leur dit, allez dans le monde entier, annoncez la bonne nouvelle à tous les hommes. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. C'est simple, le ciel. Le ciel, c'est simple. C'est la foi et l'engagement avec Dieu. Simplement dire, Dieu, je crois que tu es mort et ressuscité, que tu as payé à ma place. Et je veux, c'est ça la partie quand on dit qui sera baptisé, c'est-à-dire qui a fait le choix de se mouiller pour Dieu. Et je veux te suivre. Ça fait le ciel. C'est quand même simple. C'est quand même triste qu'avec quelque chose d'aussi simple, il y ait aussi peu de monde. Mais Jésus a simplifié considérablement les choses. Avant, il fallait des sacrifices, il fallait des agneaux, il fallait, comme font les musulmans aujourd'hui avec les laïcs kébir, etc. Ils avaient besoin de trucs, ils avaient besoin de... Aujourd'hui, c'est une autoroute vers le ciel avec Jésus. Les Juifs étaient obligés de faire des sacrifices de pigeons, d'agneaux, etc. Et Dieu dit, tous ces sacrifices ne vous pardonneront pas vos péchés, ce n'est pas suffisant. J'en ai ras le bol de vos erreurs. C'est exactement ça l'Ancien Testament. Alors je vais vous donner vraiment ce qui me coûte le plus. Je vais vous envoyer mon fils unique, celui en qui j'ai mis toute mon affection, et je vais l'envoyer vers vous. Écoutez-le! Combien de fois la Bible a dit, écoutez-le! Et Jésus vient sur la croix, il dit, Père, pardonne-leur, ils savent pas ce qu'ils font. Mais il a dit en ressuscitant, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Est-ce que tu as cru? Est-ce que tu es baptisé? Est-ce que tu es engagé avec Dieu? C'est tellement simple, le ciel. Des fois, c'est tellement simple que tu n'y vas même pas, parce que tu dis, c'est trop simple. C'est tellement simple, le ciel. Le billet, il est payé par le sang de Jésus. Ne croyez pas, beaucoup de religions ont rajouté des choses. C'est-à-dire, pour eux, c'était tellement choquant que ça soit aussi simple d'être sauvé. Du coup, ils ont rajouté des œuvres, des actions à accomplir pour être sauvé. C'est pas vrai. Toutes ces actions ne feront pas que tu ailles au ciel. La Bible dit, et c'est très clair, nul ne sera justifié par ses œuvres. Nul ne sera justifié par ses œuvres. Dans Éphésiens, il est dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Mais c'est autre chose, ça. Vous êtes sauvés sans les œuvres, mais pour faire des bonnes œuvres. Vous comprenez la différence? Ce n'est pas vos œuvres qui vous amènent au ciel. Et des fois même, peut-être, je parle à des personnes qui ont des années de conversion. Après avoir été leader, après avoir été responsable dans une église, après avoir agi dans des services, des fois, on finit par croire que nos œuvres nous ouvrent le ciel. Vos œuvres ne vous ouvrent pas le ciel. Le ciel, il est ouvert simplement parce que Jésus est mort à la croix pour vous. Il y a zéro mérite là-dedans. Par contre, la Bible dit, deuxième aspect, une fois que tu es accepté, une fois que tu es accepté, tu passes pour les récompenses. Et c'est là où il y a des regrets. Il y a des regrets parce que la suite, c'est-à-dire l'acceptation dépend du salut, de l'œuvre de Jésus, mais par contre, les récompenses dépendent de leurs œuvres. Et c'est pour ça que certains ont mélangé les choses. Et c'est très important que vous ayez une doctrine claire de ce que dit Jésus. Il y a deux choses différentes là. Le salut, c'est en Jésus, mais par contre, toutes vos œuvres sur la terre sont notées, sont comptées pour le ciel, mais c'est pour la partie récompense. Dans Apocalypse, au chapitre 2, verset 19, il dit « Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi. » Là, ça vous donne des idées un petit peu de qu'est-ce que c'est que les œuvres. Les œuvres que Dieu attend de toi, c'est ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance. Aïe, aïe, aïe. Ta constance et tes dernières œuvres qui sont plus nombreuses que les premières. À un autre endroit, il est dit « Je vis les morts, les grands et les petits. » Vous savez que la taille, peu importe. Hein. Comparaissant devant le trône, des livres furent ouverts. On ouvrit aussi un autre livre, le livre de vie. Les morts furent jugés chacun d'après ses actes, suivant ce qui est écrit dans ces livres. Et c'est l'aspect des récompenses. Vous connaissez cette parabole des talents ? Il y a des talents que Dieu t'a donnés, tu les caches, tu regretteras. Tu as un certain nombre d'années sur la terre pour faire le bien et pour rentrer dans les projets de Dieu. Après quoi vient le jugement ? Je vous donne le texte. Est-ce que c'est possible d'afficher sur les écrans 1 Corinthiens 3, 11 ? Je voudrais le lire avec vous pour terminer ce matin. 1 Corinthiens 3, 11. Pour ce qui est du fondement, nul ne peut poser un autre que celui qui est déjà en place, c'est-à-dire Jésus-Christ. Donc déjà, si vous voulez faire des choses, faites-les au nom de Jésus, faites-les grâce à votre relation avec Christ. Mais regardez la suite surtout. Verset 12. Or, on ne peut bâtir sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du chaume, du torchis de paille. On peut bâtir avec tout ça. Vous voyez, la qualité des matériaux est différente. Je sais qu'on a des personnes qui travaillent dans le bâtiment ce matin. Si je vous propose une maison en torchis de paille ou bien en pierre précieuse, normalement, ce n'est pas pareil. Hein. Le prix ne sera pas le même. Hein. Verset 13. Mais le jour du jugement montrera clairement la qualité de l'œuvre de chacun et la rendra évidente. En effet, ce jour sera comme un feu qui éprouvera l'œuvre de chacun pour en révéler la nature. Si la construction édifiée sur le fondement résiste à l'épreuve, son auteur recevra son salaire, c'est-à-dire sa récompense. Mais si elle est consumée, il en subira les conséquences. Lui, vous lisez avec moi là, je ne veux pas être le seul parce que moi ça ne sert à rien, moi je connais déjà le verset. Mais je voudrais que ça s'imprime chez vous parce que lui ou elle, hein, on est d'accord, hein, c'est toi aussi. Hein. Personnellement sera sauvé, mais tout juste, comme un homme qui réussit à échapper au feu. Donc en fait, le problème, c'est que quand tu es sauvé et que tu n'as rien fait de ta vie, tu as gâché ta vie avec plein de choses inutiles, tu arrives et tu dis, est-ce que je suis accepté ? Bonne nouvelle, tu es accepté, tu as 10-0-0, ton bac, tu l'as. Mais quand tu arrives et que tu as le test du feu, tu regardes, il ne reste rien de ma vie. Il ne reste rien de ma vie. Et là, je pense que chez les chrétiens, il y aura, ça ne sera pas des larmes comme le fait d'être refusé au ciel. Je pense que c'est 10 fois, enfin, il n'y a pas de comparaison. C'est pire, d'être loin de Dieu à jamais. C'est ça l'enfer. L'enfer, c'est séparé de Dieu à jamais. Après, vous faites toute la représentation que vous voulez, mais la plus grande des horreurs, c'est que lorsque dans un lieu, il n'y a plus du tout la présence de Dieu. Qu'est-ce qui fait que la vie reste supportable sur la terre ? Malgré une puissance démoniaque, il y a aussi la présence de Dieu. Donc ça compense un peu et la vie sur la terre est supportable. Mais alors, la vie sur la terre, vous enlevez les chrétiens, vous enlevez la présence de Dieu, vous enlevez l'œuvre du Saint-Esprit, il vous reste une horreur. Il vous reste des gens que comme des Hitler, quoi. Bref. Alors, pour ceux qui sont sauvés, qui sont acceptés, vous êtes face à Dieu. Il y a le feu qui teste. Et tout d'un coup, vous voyez le fil de votre vie, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans, 20 ans, 21 ans. Vous avez tout. Vous voyez votre mariage, vous voyez votre première relation, vous voyez les péchés que vous avez cachés. Vous voyez tout. Et puis vous voyez une fois où à l'arrêt de bus, vous avez été gentil, vous avez parlé à quelqu'un. Et Dieu dit, à chaque fois que vous avez donné un verre d'eau au moindre des petits, c'est pour moi que vous l'avez fait. Alors vous dites, mince, je pensais que c'était rien, mais la grand-mère là, yes, plus un grâce à la grand-mère. Vous imaginez ça? Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? C'est vous ne le faites pas pour pouvoir avoir une récompense au ciel. Mais il dit, vous êtes sauvés, utilisez votre vie pour des bonnes œuvres, pour des choses bonnes. Tout d'un coup, vous allez dire, tiens, ce jour-là, j'ai parlé bien et ça a été validé comme justice, compté comme justice. Parce que ce moment à table où vous étiez tout seul et tout le monde s'est moqué de vous parce que vous avez pris une position pour Dieu, vous l'avez vécu comme un moment d'humiliation. À ce moment-là au ciel, Dieu dit, vous avez vu, là, il a assuré. Et tout d'un coup, c'est vous qui souriez, les autres qui pleurent. Et c'est là où vous dites, les œuvres les suivent. Tout d'un coup, tu as la vidéo où tu étais avec le balai dans l'église en train de brosser. Et tu étais même un petit peu marre quand même. Mais Dieu dit, hey, c'est compté comme une bonne œuvre. Et tout d'un coup, tout ce pourquoi ça a compté ta vie, tu as donné tout ton temps pour ton travail, ton appartement que tu n'as même pas pu embarquer au ciel. Et tu te rends compte qu'en fait, le plus important, c'était la façon dont tu parlais à la concierge dans le hall. Et c'est pas vrai. C'est pas vrai. Si j'avais su, j'aurais fait ce que dit Jésus. Mais vous ne vous attachez pas au bien matériel. Là où la teigne, la rouille, tout dévoré. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Amassez-vous des trésors. Il n'a pas dit que c'est des trésors pour les autres, c'est pour vous les trésors. Chaque œuvre juste que tu auras fait sur la terre méritera sa récompense. Jésus dit chaque chose, chaque verre d'eau. En Israël, je crois que c'est quand même un verre d'eau, ça vous coûte combien aujourd'hui? Un verre d'eau, ça vous coûte combien? L'eau du robinet, même si elle a monté un peu, il ne faut pas exagérer. Le verre d'eau, il ne vaut pas un centime. Pour chaque verre d'eau que vous avez donné, que vous l'avez fait avec un cœur, par le fondement qu'est Jésus, c'est-à-dire pour dire voilà, je le fais, pas seulement je le fais comme ça au hasard, je le fais parce que mon sauveur m'a appris à aimer et moi je veux aimer. Vous le faites parce que vous êtes un ambassadeur, une ambassadrice de Jésus sur la terre, alors ce verre d'eau est compté. On va fermer les yeux ensemble. Seigneur. Alors que les yeux sont fermés, les têtes baissées. Il est dit qu'un jour Jacques, Jean et Pierre ont été emmenés avec Jésus sur une montagne à l'écart. Il fut transfiguré devant eux. Son visage se mit à resplendir comme le soleil. Ses vêtements prirent une couleur éclatante, une blancheur éclatante, aussi éblouissante que la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent. Ils s'entretenaient avec Jésus. Un autre texte dit « Il parlait avec Jésus ». Les deux hommes s'entretenaient avec Jésus. Il parlait dont Jésus allait achever sa mission en mourant à Jérusalem. Ce qui préoccupe Élie à la fin de sa vie, c'est la qualité de sa mission. Ce qui préoccupe Élie lorsqu'il rencontre Jésus sur la montagne de la Transfiguration, c'est de parler avec Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à la fin de la mission? Ce qui me préoccupe ce matin, c'est lorsque tu vas voir ton entretien avec Jésus, qu'est-ce que tu diras sur ta mission? Comment tu auras achevé ta mission? On va rester en prière, je voudrais qu'il y ait un temps de silence. Seras-tu sauvé? C'est la première question. Est-ce que tu as fait la paix avec Dieu? Est-ce que tu as demandé pardon à Dieu pour tes péchés? Est-ce que tu t'es engagé avec lui? Parce que là-dessus, tu joues le ciel. Deuxième question. Est-ce que tu as pris conscience que tes œuvres, même si elles ne te sauvent pas, tes œuvres te suivent et qu'il serait temps d'arrêter de gâcher ton temps? J'ai demandé aux personnes désignées pour la Sainte Seine de venir sur le devant, mais on va rester en prière, tous les autres. Jésus te sonde et te connaît. Il sait tout de toi, il sait quand tu te lèves, il sait quand tu t'assieds. Il sait dans quelle attitude tu es venu à l'église ce matin, il sait tout.